à 8 heures qu'elle descendait faire le premier déjeuner, en commun avec le docteur, dans la salle à manger. Et, en attendant, elle se livra à des soins de toilette minutieux, se coiffa, se chaussa, passa une robe de toile blanche à pois rouge. Puis, ayant encore un quart d'heure à tuer, elle contenta un ancien désir. Elle s'assit pour coudre une petite dentelle, une imitation de chantilly, à sa blouse de travail. Cette blouse noire qu'elle finissait par trouver trop garçonnière, pas assez femme. Mais, comme 8 heures sonnaient, elle lâcha son travail, descendit vivement. « Vous allez déjeuner toute seule, » dit tranquillement Martine, dans la salle à manger. « Comment ça ?»« Oui, monsieur m'a appelé et je lui ai passé son œuf par l'entrebâillement de la porte. Le voilà encore dans son mortier et dans son filtre. Nous ne le verrons pas avant midi. » Clotilde était restée saisie, les joues pâles. Elle but son lait debout, emporta son petit pain et suivit la servante au fond de la cuisine. Il n'existait, au rez-de-chaussée, avec la salle à manger et cette cuisine, qu'un salon abandonné où l'on mettait la provision de pommes de terre. Autrefois, lorsque le docteur recevait des clients chez lui, il donnait ses consultations là. Mais, depuis des années, on avait monté dans sa chambre le bureau et le fauteuil. Et il n'y avait plus, ouvrant sur la cuisine, qu'une autre petite pièce, la chambre de la vieille servante, très propre, avec une commode de noyer et un lit monacal garni de rideaux blancs. « Tu crois qu'il s'est remis à fabriquer sa liqueur ?» demanda Clotilde. « Dame, ça ne peut être que ça. Vous savez bien qu'il en perd le manger et le boire quand ça le prend. » Alors, toute la contrariété de la jeune fille s'exhala en une plainte basse. « Ah, mon Dieu, mon Dieu !» Et tandis que Martine montait faire sa chambre, elle prit une ombrelle au porte-manteau du vestibule. Elle sortit manger son petit pain dehors, désespérée, ne sachant plus à quoi occuper son temps jusqu'à midi. Il y avait déjà près de 17 ans que le docteur Pascal, résolu à quitter sa maison de la Villeneuve, avait acheté la Souleyade, 20 000 francs. Son désir était de se mettre à l'écart et aussi de donner plus d'espace et plus de joie à la fillette que son frère venait de lui envoyer de Paris. Cette Souleyade, aux portes de la ville, sur un plateau qui dominait la plaine, était une ancienne propriété considérable, dont les vastes terres se trouvaient réduites à moins de 2 hectares, par suite de ventes successives, sans compter que la construction du chemin de fer avait emporté les derniers champs labourables. La maison elle-même avait été à moitié détruite par un incendie. Il ne restait qu'un seul des 2 corps de bâtiment, une aile carrée à 4 pans, comme on dit en Provence, de 5 fenêtres de façade, couvertes en grosses tuiles roses. Et le docteur, qui l'avait achetée toute meublée, s'était contenté de faire réparer et compléter les murs de l'enclos pour être tranquille chez lui. D'ordinaire, Clotilde aimait passionnément cette solitude, ce royaume étroit qu'elle pouvait visiter en 10 minutes et qui gardait pourtant des coins de sa grandeur passée. Mais ce matin-là, elle y apportait une colère sourde. Un moment, elle s'avança sur la terrasse, aux 2 bouts de laquelle étaient plantés des cyprès centenaires, 2 énormes cierges sombres qu'on voyait de 3 lieues. La pente, ensuite, dévalait jusqu'au chemin de fer. Des murs de pierres sèches soutenaient les terres rouges où les dernières vignes étaient mortes. Et sur ces sortes de marches géantes, il ne poussait plus que des files chétives d'oliviers et d'amandiers au feuillage grêle. La chaleur était déjà accablante. Elle regarda de petits lézards qui fuyaient sur les dalles disjointes entre 2 touffes chevelues de capriers. Puis, comme irritée du vaste horizon, elle traversa le verger et le potager, que Martine s'entêtait à soigner, malgré son âge, ne faisant venir un homme que deux fois par semaine pour les gros travaux. Et elle monta vers la droite dans une pinède, un petit bois de pin, tout ce qu'il restait des pins superbes qui avaient jadis couvert le plateau. Mais, une fois encore, elle s'y trouva mal à l'aise. Les aiguilles sèches craquaient sous ses pieds, un étouffement résineux tombait des branches. Et elle fila le long du mur de clôture, passa devant la porte d'entrée, qui ouvrait sur le chemin des Fenouillères, à 5 minutes des premières maisons de Plassans, déboucha enfin sur l'aire, une aire immense de 20 mètres de rayon, qui aurait suffi à prouver l'ancienne importance du domaine. Ah, cette aire antique, pavée de cailloux ronds, comme au temps des Romains, cette sorte de vaste esplanade qu'une herbe courte et sèche, pareille à de l'or, semblait recouvrir d'un tapis de haute laine. Quelle bonne partie elle y avait faite autrefois, à courir, à se rouler, à rester des heures étendues sur le dos lorsque naissaient les étoiles au fond du ciel sans bornes. Elle avait rouvert son ombrelle. Elle traversa l'air d'un pas ralenti. Maintenant, elle se trouvait à la gauche de la terrasse. Elle avait achevé le tour de la propriété. Aussi revint-elle derrière la maison, sous le bouquet d'énormes platanes qui jetaient de ce côté une ombre épaisse. Là s'ouvraient les deux fenêtres de la chambre du docteur. Et elle leva les yeux, car elle ne s'était rapprochée que dans l'espoir brusque de le voir enfin. Mais les fenêtres restaient closes. Elle en fut blessée comme d'une dureté à son égard. Alors seulement, elle s'aperçut qu'elle tenait toujours son petit pain, oubliant de le manger. Et elle s'enfonça sous les arbres, elle le mordit impatiemment de ses belles dents de jeunesse. C'était une retraite délicieuse, cet ancien quinconce de platane, un reste encore de la splendeur passée de la Souleyade. Sous ces géants, au tronc monstrueux, il faisait à peine clair, un jour verdâtre, d'une fraîcheur exquise, par les jours brûlants de l'été. Autrefois, un jardin français était dessiné là, dont il ne restait que les bordures de buis. Des buis qui s'accommodaient de l'ombre, sans doute, car ils avaient vigoureusement poussé, grands comme des arbustes. Et le charme de ce coin si ombreux était une fontaine. Un simple tuyau de plomb scellé dans un fût de colonne